Page 26.
Grateau, l'œil dans le rétro. Grateau pendant la Seconde Guerre mondiale. Article de Éric Tiffaigne.
Difficile cette année d'échapper à cet élan de souvenirs, d'hommages, de réflexions sur les événements qui se sont déroulés dans notre Normandie il y a 80 ans. 80 ans, ce n'est pas si loin et pourtant que la vie a changé. Les conditions de vie, le niveau de vie, l'habitat, la nourriture, l'hygiène, la médecine, le travail, les vacances, les transports, les techniques, les métiers, les équipements. Bref, c'était un autre monde, a fortiori en temps de guerre. Aujourd'hui, en 2024, cela fait 80 ans qu'il n'y a plus de combats et d'horreurs en tout genre sur notre sol normand. Je me demande si une telle période de paix a déjà existé dans les siècles de l'histoire de France. Quelle chance nous avons ! Sachons l'apprécier. Bien sûr, dans cette époque aussi troublée de 39-45, il y a eu des braves, des lâches, des profiteurs, des victimes, des bourreaux, mais la grande majorité des Français avaient pour principal souci de vivre, de survivre, de trouver à se loger, à se nourrir, à se vêtir, se chauffer, à s'approvisionner. Gardons-nous bien de juger ceux qui ont dû traverser pareille épreuve. Il est bien difficile aujourd'hui de dire, nous, qui ne manquons de rien, de ce que nous aurions fait à leur place. Ballottés par le danger, le hasard des rencontres, les haines, les amours, les aléas de la vie, les pénuries en tout genre et en tout premier lieu privés de liberté. Comment Grateau a-t-il traversé cette Seconde Guerre mondiale ? Je vais juste rappeler quelques dates, quelques faits, quelques anecdotes.
De 1935 à 1945, le conseil municipal est ainsi constitué. Eugène Lemierre, maire, Auguste Ledentu, adjoint, Albert Cavé, Pierre Deperrier, Émile Falaise, Georges Fauvel, Achille Ferré, Aimable Jacquet, Pierre Langrone, Jean Tiffaigne, Jean-Baptiste Villedieu. Grateau comptait alors 500 habitants, essentiellement des paysans et des artisans. Le 1er septembre 1939, c'est la mobilisation générale. 45 000 Manchois, âgés de 20 à 48 ans, sont appelés sous les drapeaux, soit 36% de la population active masculine. À Grateau, comme partout, prêtres, instituteurs, conseillers municipaux font partie du lot, ce qui désorganise bien notre petite société. Le 3 septembre, la France déclare la guerre à l'Allemagne, mais les troupes françaises attendent l'ennemi à la frontière. C'est une guerre d'attente. La drôle de guerre. Les mobilisés ont parfois des permissions. Ainsi, en consultant les comptes rendus des conseils municipaux de Grateau de l'époque, on voit que des conseillers sont parfois présents et parfois absents pour cause de mobilisation et donc ô combien excusés. C'est pourtant pendant cette période de fausse guerre que Grateau va perdre bêtement un de ses fils. Pierre Denis, du village de la Pitonnerie de Bas, âgé de 28 ans, était matelot canonnier sur le patrouilleur Amiral Mouchez. En janvier 1940, en mer du Nord, dans le brouillard, un navire français, le Brestois, tire un obus, par erreur, sur le patrouilleur Amiral Mouchez, croyant qu'il s'agissait d'un bâtiment allemand. Pierre Denis sera l'unique combattant gratoté tué pendant cette Seconde Guerre mondiale. Et il a fallu que ce soit par un tir français. C'est vraiment trop stupide.
Page 27.
Succédant à cette drôle de guerre, arrive le 10 mai 1940, la guerre éclair. Les troupes allemandes déferlent sur la France. Apeurés, les civils du nord de la France fuient vers le sud et l'ouest. C'est l'exode. Quelques réfugiés sont accueillis à Grateau. Dès le 17 juin 1940, en fin de journée, les premières motos allemandes arrivent au Gros Frêne. Elles suivent d'à peine quelques minutes les dernières troupes françaises et britanniques qui vont essayer d'embarquer à Cherbourg. À la signature de l'armistice le 22 juin 1940, il y a 24 grattotés prisonniers de guerre, parmi lesquels le curé Charles Blondin et l'instituteur et secrétaire maire de mairie René Barre. Ce dernier sera remplacé successivement par trois personnes qui assureront tant bien que mal l'éducation des 45 élèves.
C'est donc une longue période 4 ans d'occupation qui commence avec son cortège d'interdictions, de restrictions en tout genre. Couvre-feu, laissez-passer. D'humiliation, obligation de se mettre à l'heure allemande, de descendre d'un trottoir quand on croise un soldat allemand. De confiscation, fusil de chasse, poste de radio. De pénurie de certains produits, essence, outils, vêtements, chaussures. De réquisition, nourriture, terrain, maison, chambre, chevaux, foin, paille, bicyclette et surtout main-d'œuvre. Grateau fait partie de la zone côtière interdite. Coutances n'en fait pas partie, ce qui complique encore la circulation des personnes et la gestion des laissez-passer. À propos de circulation, détail anecdotique, le bourg de Grateau n'est pas encore goudronné. Après la déception, pour ne pas dire l'humiliation de la défaite, et la surprise de l'occupation, les grattotés s'enferment dans une attitude d'ignorance, voire de mépris de l'occupant, et se concentrent sur le travail, l'approvisionnement, la débrouille. Comme la demande de main-d'œuvre volontaire pour aller travailler en Allemagne ne rencontre aucun succès, Pierre Laval, président du Conseil, invente en 1942 la relève, un échange de 3 ouvriers spécialistes contre un prisonnier libéré. Mais ça ne marche pas non plus. Alors, Laval instaure, en février 1943, le service du travail obligatoire, STO. Les requis partent travailler soit en Allemagne, soit à la construction du mur de l'Atlantique, qui s'étend de la Norvège jusqu'à la frontière espagnole. Là encore, ceux qui le peuvent évitent de partir. Des jeunes grattotés réfractaires se cachent dans d'autres communes en changeant d'identité, et Grateau accueille des jeunes des autres communes. La Gestapo se livre à une véritable chasse aux réfractaires. Les risques de dénonciation, de chantage, de représailles sont grands. En milieu rural, les maires et les gendarmes sont très souvent complices des réfractaires. Bien sûr, à la campagne en général, et à Grateau en particulier, on souffre moins de pénuries alimentaires que dans les grandes villes. Mais le nombre de prisonniers absents, les exigences allemandes en main-d'œuvre et en ravitaillement désorganisent considérablement l'économie. Cela engendre, point négatif, une envolée considérable des prix, mais aussi, point positif, une belle solidarité des travailleurs encore présents et un engagement admirable des femmes qui compense l'absence du millier de manchois tués entre septembre 39 et juin 40 et des 21 500 prisonniers de guerre de notre département. Parmi ces grattotaises, en juin 1943, Suzanne Le Rouxel, 32 ans, mère de 3 enfants, dont le mari est prisonnier de guerre, accueille et cache Berthe Pipkis et sa fille Marcel, de Saint-Loise, dont le crime, selon les nazis, est d'être juive. Suzanne Le Rouxel mérite bien de recevoir, en 1998, le titre de « Juste parmi les nations », remis par le mémorial de Jérusalem. Qui sauve une vie, sauve le monde. Citation de Talmud. Après ces pesantes et contraignantes, mais assez calmes années d'occupation, arrive le maelstrom normand de l'année 1944.
Page 28.
Le 6 juin et le 13 juin 1944, Coutances est bombardée par l'aviation alliée. Bilan, plus de 300 civils tués, 612 maisons entièrement détruites, 1313 endommagés, tout ça pour une vingtaine de victimes allemandes. Les Coutançais fuient dans les communes avoisinantes. Le sauvetage des blessés, les inhumations des morts sont assurées dans des conditions épouvantables et traumatisantes par quelques courageux Coutançais, parmi lesquels de jeunes séminaristes. L'un d'eux, Raymond Le Chaplin, deviendra curé de Grateau en 1957. Les réfugiés coutançais se logent dans les fermes, dans les étables, parfois même dans les chemins creux. Que ce soit avec les premiers réfugiés du Nord en 1940, avec les réfugiés de Coutances de ce début de juin ou avec les réfugiés à venir, fuyant la zone de combat du Cotentin en juillet 1944, de solides amitiés ont souvent vu le jour entre accueillants et accueillis. On n'a jamais tort de faire une bonne action. Les services de la ville de Coutances sont transférés dans d'autres communes. L'hôpital à Coutainville, 400 malades et blessés, sont transportés dans des conditions précaires en 24 heures. La gendarmerie, d'abord à Cambernon, puis à Coutainville, une succursale de la mairie en haut de la Délasse. Le bureau de poste de Coutances est installé à Grateau, au village La Pitonnerie de Haut, dans une dépendance de la ferme du maire Eugène Lemierre. Pour ses enfants et petits-enfants, cette dépendance qui existe encore aujourd'hui portera éternellement le nom de bureau. Sous le domaine du château de Grateau existait un bois d'environ 5 hectares où était camouflé un important dépôt de munitions allemands. Celui-ci était efficacement défendu par plusieurs unités de défense antiaérienne allemande, la FLAC, sur Grateau et la Vendelée.
L'été 1944, le ciel de Grateau fut bien agité. Les combats font rage entre l'aviation, la FLAC allemande, et l'aviation alliée qui cherche à détruire la gare de Coutances, le pont de la Roque, le pont d'Yenville et le bois de Grateau. À tel point que la fin de l'année scolaire, normalement prévue mi-juillet, est avancée à la fin mai. Sage décision quand on apprend, en consultant les archives départementales, que l'école des garçons a subi des mitraillages et une explosion de bombes en juillet. Pour sa part, l'église de Grateau, elle ne fut pas la seule, voit sa toiture et ses vitraux bien endommagés par l'explosion du dépôt de munitions allemands. C'était le 28 juillet. Difficile de dire aujourd'hui si les Américains avaient fini par faire mouche ou si ce sont les Allemands qui l'ont saboté avant de dégager.
Page 29.
Au cours des combats aériens, 9 avions seront abattus dans les environs. Entre autres, à la Morisserie, à la Renaudière, au village Maudouy, à Servigny, au village Opelé. Les pilotes périssent parfois ou sont blessés, ou sont faits prisonniers, ou sont camouflés par des grattotés courageux et dévoués. Parmi ceux-ci, il y en a sans doute eu d'autres, je nommerai M. Emmanuel Billard, agriculteur de 47 ans, M. Émile Burnel, agriculteur de 41 ans, et M. Champalone, de 49 ans. Berthe et Joseph Champalone tenaient le café épicerie-mercerie Le Tournebride. Joseph était aussi le garde champêtre de Grateau. C'est lui qui avait découvert et constaté le décès du pilote américain Marion Benson au Gros Frêne. Mais il participait aussi clandestinement au sauvetage et au transfert des pilotes vers la côte pour rejoindre, en passant par la mer, les lignes américaines situées autour de Créance. Il en est mort de maladie et d'épuisement le 13 août 1944, 15 jours seulement après la libération de Grateau.
Voilà enfin la libération. Finalement, Grateau a eu la chance de ne jamais être au centre de combat terrestre sur la ligne de front. Les troupes et leur impressionnant matériel n'ont fait que passer. Le Gros Frêne et la petite route de Bélé, au pont de la Roque, en ont vu passer des soldats et du matériel. En juin 40, la 7e Panzerdivision de Rommel. Le 20 juin 1944, la tristement célèbre division d'Achreich qui remonte vers le front au nord de la Manche. Fin juillet, début août 1944, des milliers d'Américains de l'armée de George Patton passent par Bélé, la Bellecroix, le pont de la Roque, puis foncent sur la Bretagne. Les 5 et 6 août, la 2e DB du général Leclerc file à son tour pour aller libérer Paris. Malgré toutes les contraintes, les dangers, les peurs, les grattotés ont continué à travailler. Il fallait bien traire les vaches, faire les foins pour se nourrir et répondre aux besoins des villes et des troupes. En conclusion, je pense qu'il est bénéfique de se remémorer le passé, de le comprendre, afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Comme le disaient certains occupants qui auraient préféré être dans leur foyer, la guerre, grosse malheur. Sachons apprécier la chance d'être en paix.
Page 30.
C'est un exposé très succinct de cette période dans la Manche. J'encourage ceux qui s'intéressent à ce sujet à consulter entre autres les livres de Michel Boivin, Martin Blumenson, Michel Pinel, l'abbé Georges Cadel, Joseph Fromage et Jean-Luc Grandin.